sur 99.9.
À Avignon et à Nîmes sur 95.2.
On est ensemble jusqu'à 10h avec tous les rendez-vous habituels de cette matinale. Évidemment, ce mercredi 18 avril, c'est la Saint-Parfait. Je ne peux pas résister à souhaiter donc la fête de notre ami Robert Ménard.
Ah bah oui.
Bonne fête, Robert.
C'est vrai.
Bonjour, Gilles.
La perfection, la perfection fait homme.
Eh oui, bonjour, Robert. L'interview politique de U610. Aujourd'hui, vous recevez Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière à la présidentielle.
Sud Radio, Pascal Bataille, Ménard en liberté.
Nathalie Arthaud, bonjour. Alors, je ne suis pas parfait. Vous ricanez, je sens. Ça vous fait rire. Nathalie Arthaud, si je vous demandais, au terme de la campagne, c'est quasiment terminé, l'idée, la proposition que vous voudriez que les gens retiennent de ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous choisiriez? Une, par exemple, une seule idée.
L'interdiction des licenciements.
C'est ce qui vous semble essentiel?
Oui, parce que après le 6 mai, les plans de licenciement vont tomber. Voilà, c'est déjà programmé dans de nombreuses usines, de nombreux grands groupes qui se sont un peu retenus là le temps de la campagne, mais ça va tomber.
Et vous comptez sur la gauche, si elle est au pouvoir, pour résister à ça, sérieusement?
Non,
sérieusement.
Sûrement pas, justement. Et c'est bien ce que j'ai défendu pendant toute cette campagne. C'est un programme de lutte, c'est-à-dire je suis consciente que l'interdiction des licenciements, mais aussi préserver son salaire, c'est-à-dire obtenir l'indexation des salaires, mais des pensions de retraite sur les prix, et aussi obtenir le droit pour les travailleurs de tout savoir de ce qui se passe dans les entreprises, savoir l'argent qu'il y a et puis les décisions qui sont prises. Tout ça, faudra l'imposer, faudra l'arracher au travers des luttes. Et alors, voilà, moi je l'ai
mais
dit.
On a Jean-Luc Mélenchon qui dit exactement la même chose, mais qui finira au gouvernement.
Jean-Luc Mélenchon, je ne suis pas sûre qu'il finisse au gouvernement.
Enfin, c'est pas lui, c'est vos copains communistes.
Moi, je pense que il fera partie de la majorité effectivement gouvernementale. Si Hollande arrive
et
au pouvoir.
Taira.
Mais la grosse différence avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que justement, lui nous explique qu'il faut attendre le SMIC, hein, une augmentation du SMIC, attendre plus de droits pour les travailleurs, de l'arrivée au pouvoir d'un bon gouvernement de gauche dirigé par lui-même. Voilà. Et la grande différence, c'est que moi je dis que ces revendications-là qui sont pour moi vitales et indispensables pour les travailleurs, il faudra les arracher au travers des luttes et des mobilisations. C'est ça la grande différence. Lui, c'est encore cette perspective électorale, hein, mais je crois que voilà, il est dans la lignée finalement de l'union de la gauche et de la gauche plurielle, effectivement.
Nous, on sait ce que ça a donné, voilà, quand même.
De notre
vous avez un peu de mémoire.
Mais justement, nous l'avons non seulement en mémoire, mais sur le cœur. Hein, les trahisons, effectivement, des différents gouvernements de gauche, c'est bien pour ça que j'ai dit aux travailleurs, il va falloir...
Et c'est bien pour ça que vous allez appeler à voter pour eux.
C'est pas par pessimisme.
Et c'est bien pour ça que vous allez appeler à voter pour eux.
Ah mais, vous savez, vous allez être comme les autres, vous allez devoir attendre, patienter, jusqu'à dimanche soir.
On parie.
Ah ben, moi, je vais faire un pari, ni dans un sens, ni dans l'autre, parce que, justement, je garde pour dimanche soir ma déclaration.
On en parlera la semaine prochaine, hein. Ensemble, si vous le voulez bien.
Si vous voulez.
Alors, une question sur vous, là. Qu'est-ce que vous retenez, vous? Est-ce qu'il y a une image, une rencontre que vous retenez de cette campagne? Je veux dire, qui vous a, vous, fait chaud au cœur, qui a compté, qui comptera?
Oui.
Allez, une image, une rencontre.
Alors, ça serait deux. Les ouvrières de Saudi Médical, non loin de Troyes, et les travailleurs de l'imprimerie Hebdoprint
Comarec. Pourquoi eux plus que d'autres?
Parce que j'ai ressenti la rage, voilà, la rage, le sentiment d'injustice, vraiment, et une révolte profonde, à la fois contre, évidemment, leur patron, hein, qui les mettait sur le carreau, mais contre tout le système, parce que, y compris, ils se sont retrouvés aussi contre la justice. Hein, alors avec une justice, par exemple, pour Saudi Médical, qui a donné raison aux ouvrières.
Absolument, on va voir ce que dit la Cour de cassation.
Les décisions n'ont pas été exécutées et elles se retrouvent quand même bel et bien depuis 6 mois sans salaire. Donc voilà, c'est un sentiment de révolte, d'injustice que j'ai partagé avec eux. Et c'est vrai que ça m'a suivi pendant toute cette campagne.
Est-ce que la campagne, ça vous a changé?
Oh, je ne crois pas. Je crois que...
Attends, c'est pas possible de faire une première campagne présidentielle sans que ça change quelque chose,
quand
même. Ah non,
pour moi, c'est pas la première campagne présidentielle. Ça en fait déjà un certain nombre que j'ai vécu.
Les autres,
je les ai vécues comme militante, certes.
Oui, sauf que là, c'est
je
vous.
Je collais plus d'affiches et je distribuais plus de tracts dans la rue. Mais c'était la même, mais en réalité...
Vous n'allez pas me dire que c'est la même chose quand on colle les affiches et quand on est sur l'affiche, quand même.
C'est la même envie de convaincre. Et c'est vrai que ça se fait pas de la même façon, évidemment, sur les plateaux de télé où on a une plus grande pression, une responsabilité peut-être plus grande et où on
n'y a rien qui a bougé chez vous. Vous n'avez pas appris des choses, changé des choses, vu les gens d'un regard différent, rien.
Bah, écoutez, non, mais vous savez. Merci, monsieur Ménard.
Je
ne suis pas une machine.
Mais c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre que vous me disiez ça n'a pas changé.
Mais non, mais moi, ça ne m'a pas changé. Mes convictions, ça les a confortées. Voilà.
Je parle pas de vos convictions, je vous parle de vous, dans votre histoire.
Moi, mais attendez, vous avez...
J'imagine bien que vous n'avez pas changé.
C'est pas parce que depuis trois semaines, je suis invitée sur les plateaux de télé.
Ça dure depuis un an.
Que j'ai eu la révélation
campagne.
Que je, franchement, non, et ça m'a.
Rien. Allez, je vais pas y arriver. Allez, on continue.
Non, c'est pas spécialement enrichissant, d'ailleurs, je dois vous dire.
C'est pas enrichissant.
Pas spécialement.
Ça vous a appauvri.
Non. Vous savez, je peux vous garantir que j'ai des discussions bien plus riches et bien plus intéressantes avec les gens que je peux croiser dans la rue, ou même avec les élèves de mon lycée. Voilà, j'ai été interviewée plein de fois par des jeunes journalistes. Mmh. Et des jeunes de mon lycée, d'Aubervilliers, m'ont demandé une interview. En dehors donc du cadre scolaire, évidemment, parce que moi je fais mon métier d'un côté et l'autre.
On y reviendra.
N'est-ce pas? Eh bien, je peux vous garantir que ce moment-là, quand j'ai discuté pendant deux heures avec eux, qui m'ont posé toutes les questions qu'ils avaient sur le cœur, eh bien là, j'ai eu une discussion, mais incomparablement plus intéressante, plus riche. Et voilà, donc.
Bon.
Non, ça m'a pas changé et ça ne me changera pas, y compris dans ma vie quotidienne. Et je vais retourner au boulot le 30 avril. Voilà.
Si vous faites pas le pont.
Oui.
Le 30 avril. Et sur les autres candidats, votre regard a pas changé. Sur Jean-Luc Mélenchon, vous en pensez aujourd'hui la même chose que vous en pensiez il y a six mois. Sur François Hollande, la même chose qu'il y a six mois. Ou vous êtes dit, vous les avez écoutés, vous êtes croisés. Là non plus, rien n'a changé.
Rien n'a changé. Voilà, je dois vous avouer
c'est
plus.
C'est désespérant.
Il y a peut-être finalement, c'est Eva Joly que je trouve courageuse. Voilà.
Ah, vous devenez écolo, je croyais que c'était un truc de bobo l'environnement,
vous
en parlez jamais.
Quand on est, vous vous trompez Robert Ménard, vous vous intéressez pas assez à ce que nous disons.
Je lis tout ce que vous dites.
Mais vous savez, dans le meeting de Zénith, il y a tout un développement sur l'écologie où j'explique que justement reprendre la maîtrise de l'économie, reprendre la maîtrise de ces grands groupes de Total, etc. C'est ça, pouvoir préserver la nature, c'est ça, pouvoir mettre en avant effectivement la préoccupation de.
Donc c'est pas qu'une affaire de bobo dont vous
foutez. Mais sauf que nous, c'est pas l'écologie politique dont on se sert pour être élu. Voilà, c'est des convictions profondes, effectivement, qu'il faut préserver notre planète pour les générations à venir.
Et vous le faites au quotidien.
Ça doit passer.
Et vous le faites au quotidien.
Mais vous triez.
Vos déchets.
Je fais un minimum de ce que je peux.
Là, je sens
comme
qu'il y a
tout le monde.
Un minimum.
Est-ce que c'est pas ça l'écologie?
Sud Radio, l'Esprit Libre, il est 8h10.
Vous êtes bien dans le 6-10 de Sud Radio, l'Esprit Libre, alors restez-y le plus longtemps possible. On est avec Robert Ménard qui reçoit ce matin Nathalie Arthaud.
Je voudrais revenir, vous savez, sur la tuerie de Toulouse. À ce moment-là, vous aviez dit, en gros, vous alliez pas arrêter votre campagne. J'ai écouté vos arguments et tout. Pourquoi je vous reviens là-dessus? Est-ce que parfois, la vie, ça passe avant la politique. Est-ce que vous pouvez vous dire, il y a des moments où tous les Français peuvent se retrouver au-delà de leurs différences, qui sont bien présentes. Est-ce que ça vous arrive de vous dire, ça, c'est quand même plus important que la politique?
Non, mais ça a été une période où la politique, elle a été intense, et que y compris ceux qui nous expliquaient qu'il fallait suspendre la campagne faisaient de la politique, voilà. Et j'ai dénoncé cette hypocrisie ambiante. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et puis voilà, la réalité, c'est que tout le monde l'a instrumentalisé, bien plus que moi justement, bien plus que moi. Donc non. Et puis c'était aussi une façon de dire, ce n'est pas parce qu'effectivement il y a eu un drame horrible que ça me rend non plus plus proche. De Nicolas Sarkozy. Je vais pas aller pleurer non plus sur son épaule, ni sur celle de Marine Le Pen. Il y a aucune raison.
Non, pleurer sur les gens qui ont été tués.
Mais pas avec, parce qu'il y a aucune proximité pour moi avec cela. D'ailleurs.
Rien.
Et je peux vous dire que j'en ai été d'autant plus heureuse que quand j'ai vu trois ou quatre jours après comment ils ont exploité politiquement ce drame, pour les thèses de leur politique et de leurs idées nauséabondes. Et ben, franchement, je me suis dit, alors là, heureusement, bien heureusement que j'ai pas joué à cette unité républicaine.
Vous auriez pu aller aux Invalides pour la cérémonie militaire qui rendait hommage à Raymond Aubrac, le grand résistant. Vous auriez pu là vous mettre à côté d'eux en disant je partage ça parce que c'est un grand bonhomme qui a consacré sa vie à des combats qui sont pas loin d'ailleurs d'être les vôtres. Est-ce que vous auriez pu être silencieuse?
Non, mais là encore, mon problème, c'est pas à côté d'eux. Voilà, c'est pas à côté d'eux, c'est pas à côté d'un Nicolas Sarkozy,
aussi comme vous
c'est
de pas à côté.
Mais attendez, mais bien sûr, mais et alors, il l'admire peut-être sans doute. D'ailleurs, pour d'autres choses que moi.
Vous en savez rien.
Sauf que c'est bien beau, hein, d'admirer 40 ans plus tard, etc. Quand on se réclame de familles politiques qui, y compris, se sont reconnues dans la politique menée par Pétain, par exemple. Hein, c'est bien beau. Alors tout ça, 40 ans, 50 ans après, moi, non, merci. Je n'oublie pas
Nicolas Sarkozy s'inscrive dans une tradition pétainiste, honnêtement.
Non, mais vous savez, voilà,
c'est un peu limite, pas gentil, ça, non ?
Non, mais bon, une fois d'un côté, une fois de l'autre, et puis on met ses œufs dans deux paniers différents. Hein. Ça a été beaucoup ça aussi, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale.
Je vous ai entendu, c'est un peu rude, ça. Vous ai entendu à la télé, c'était l'autre jour sur France 2, vous mettre très en colère après les journalistes à propos, vous savez, du camp de concentration à Gaza. Une question. Vous aviez raison sur le fond. C'est pas pareil, un camp d'extermination et un camp de concentration. Reste que la formule était pas malheureuse, vous vous êtes pas dit, j'aurais peut-être dû choisir une autre formule.
Non, c'était un
mot. Ça vous arrive de vous dire que vous pouvez tromper de moi. Ça arrive, moi, on dit des fois des bêtises.
C'est fort, c'est très fort, effectivement, mais j'ai dit, camp de concentration ou prison à ciel ouvert. Mais prison à ciel ouvert, le problème, c'est que maintenant, voilà, prison à ciel ouvert, c'est passé dans le langage commun. Ça n'interpelle plus. Alors moi, ce qui se passe là-bas, c'est dramatique. Et effectivement, c'est un peuple qui meurt à petit feu et qui est privé de tout. Alors voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Mais les mots, fois, ils sont forts et des fois, on se trompe dans les mots.
Maintenant, moi, oui, sauf que justement, camp de concentration, je tiens quand même à dire et à redire. Il y en a eu en Algérie des camps de concentration.
Vous avez raison,
dans l'Empire colonial français. Absolument. Il y en a eu en France sur les plages à Argelès, etc., etc. Bon, et tout
pour
ça.
Pour les républicains espagnols.
C'est inadmissible. Ça fait partie, moi, de ma révolte, ce qui se passe en Palestine aujourd'hui.
Et vous êtes emporté en particulier à l'encontre des journalistes. Vous trouvez que c'est une caste, qu'ils sont tous vendus? Vous êtes très agressive à l'égard des journalistes. Vous n'êtes pas la seule.
Je ne suis pas agressive.
C'est pas agressive.
Comment ça, de parler de camp de concentration?
Non, mais par rapport aux journalistes, vous êtes agacé souvent, mais comme d'autres.
Non, mais
Mélenchon est agacé.
Je peux vous retourner.
On a entendu Bayrou agacé.
Je peux vous retourner aussi la chose. Bien souvent, je me sens effectivement agressée. Hein, j'ai pas le sentiment d'être interviewée, mais d'avoir un contradicteur en face de moi. Enfin, je sais pas si le rôle des journalistes est forcément ça.
Vous avez l'impression là d'être avec un contradicteur ou quelqu'un qui essaye de comprendre?
Non, mais de façon ça très très souvent. Hein. C'est des contradicteurs, c'est pas des questions qu'ils posent, mais c'est une opposition qui m'attend.
On peut juste essayer de comprendre.
Moi, dans cette opposition là, moi effectivement j'avance mes convictions. Alors avec la fougue, avec le sentiment de révolte. Alors certains ont dit oui, elle est dure, etc. Elle est agressive, mais bon, moi, je suis surtout révoltée par ce qui se passe, voilà. Et évidemment,
on le sent, on peut être révolté.
Écoutez, moi, je sais.
Poutou, il est révolté, il est pas sur le même registre.
Eh ben, chacun sa personnalité, hein. Il en faut pour tout, hein, pour faire un monde, hein. Il faut tout pour faire un monde. Donc voilà, chacun sa personnalité. Moi, ce qui me frappe, c'est effectivement, on apprend à vivre dans un océan de misère sans même l'avoir. Eh ben, moi, j'arrive pas à ça.
Mais c'est pour ça qu'on vous trouve sympathique là-dessus.
Bah voyez, crois que peut-être que effectivement quand je réponds avec fougue, etc., je crois que c'est à la mesure de la révolte que j'ai.
Rendez-vous dans 5 ans.
Ah, avant j'espère, et dans la rue.
Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte Ouvrière. Merci à vous. Et puis nous, on n'attendra pas 5 ans pour vous inviter.
Merci.
Merci Nathalie Arthaud. Merci Robert.